écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 22 janvier 1963, l'amitié franco-allemande est consacrée par le traité de l'Élysée. Le 14 septembre 1958, à Colombey-les-Deux-Églises, modeste village de la Haute-Marne, se déroule une rencontre historique. Charles de Gaulle, président du Conseil des ministres français, accueille dans sa résidence privée de la Boisserie Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale allemande. Les ministres des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville et Heinrich von Brentano, se voient à la préfecture de Chaumont. Le tête-à-tête de Colombey-les-Deux-Églises constitue un pas essentiel vers la réconciliation franco-allemande. Adenauer, chrétien-démocrate, maire de Cologne avant la Seconde Guerre mondiale, s'est opposé au nazisme. Destitué de ses fonctions municipales, il se réfugie un temps dans un monastère avant de connaître la prison brièvement une première fois en 1943, puis plus longuement en 1944. Élu chancelier le 15 septembre 1949, il gouverne la République fédérale allemande jusqu'à sa démission le 15 octobre 1963. Au sortir de l'épreuve du nazisme, il ancre son pays dans une Europe démocratique. Dès 1951, il implique l'Allemagne fédérale au sein de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consacrée par le traité de Paris. 6 ans plus tard, il compte parmi les signataires du traité de Rome qui fonde la Communauté économique européenne. Enfin, en 1954, il adhère à l'idée avortée de la Communauté européenne de défense, avant de favoriser l'année suivante la participation de Bonn à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. De Gaulle est au fait de son pouvoir. L'ancien officier, chef de la France libre, après sa traversée du désert durant laquelle il fonde le Rassemblement du peuple français, le RPF, et rappelé aux affaires le 1er juin 1958 dans une France troublée par le drame algérien. Ultime président du Conseil de la 4e République, il devient aux prémices de l'année 1959 le premier président de la 5e République. Au terme de leur rencontre intime et conviviale, De Gaulle et Adenauer sont convaincus de la nécessité de cheminer ensemble vers la consécration de l'amitié franco-allemande. Les rencontres se succèdent. Le 26 novembre 1958, les deux chefs de gouvernement se retrouvent dans la station thermale de Bad Kreuznach, en Rhénanie-Palatinat. Le 25 octobre 1959, De Gaulle affirme lors d'une conférence de presse que la réunification est le destin normal du peuple allemand. Le 1er et 2 décembre, Adenauer est reçu à Paris. Il est également invité à Rambouillet du 29 au 30 juillet 1960. De Gaulle, quant à lui, se déplace à Bonn le 20 mai 1961. Du 20 au 23 juin, Heinrich Lübke, président de la République fédérale allemande, effectue une visite officielle en France. Les échanges s'intensifient durant l'année 1962. De Gaulle et Adenauer se voient le 15 février à Baden-Baden, et le 2 juin au palais de l'Élysée. La première semaine de juillet est consacrée à une grandiose visite officielle du chancelier allemand en France. Elle culmine le 8 juillet avec la messe célébrée en la cathédrale de Reims, tant meurtrie durant la Première Guerre mondiale. Adenauer y prononce une allocution dont il convient de retenir les phrases suivantes. Nous sommes persuadés que les dangers provoqués par la situation de par le monde ne seront surmontés qu'au moment où les peuples libres seront unis et solidaires. Cela dans une mesure toute particulière pour ces deux peuples qui se trouvent placés l'un près de l'autre au cœur de l'Europe. Enfin, du 4 au 9 septembre, de Gaulle va à la rencontre du peuple allemand. Au terme de son séjour, il s'adresse à la jeunesse au château de Luxembourg par ces mots « L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'Union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand. » L'aboutissement de ce long et fructueux parcours survient à Paris le 22 janvier 1963. De Gaulle et Adenauer signent le traité de l'Élysée, complété par une déclaration commune affirmant la réconciliation du peuple allemand et du peuple français. Il établit un rythme de rencontres et crée des organes communs propres à renforcer encore la coopération franco-allemande. Il est prévu que les chefs d'État et de gouvernement se voient chaque fois que cela sera nécessaire et en principe au moins deux fois par an. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent chaque trimestre et leurs hauts fonctionnaires régulièrement à Paris et à Bonn. Il est également indiqué que les autorités responsables de la défense, de l'éducation et de la jeunesse ont des relations régulières. Deux commissions interministérielles spécialisées dans la coopération franco-allemande sont par ailleurs constituées. En matière de défense, les deux pays s'attacheront à rapprocher leurs doctrines. Il est aussi rappelé l'importance des échanges entre les deux armées et le travail commun sur les armements. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, il est prévu de promouvoir l'apprentissage de la langue de l'autre, l'équivalence des titres et diplômes universitaires, la coopération en matière de recherche et les échanges collectifs de jeunes. Cette dernière disposition jette les bases de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui, comme chaque semaine, a été préparée par Emmanuel. C'est Renaud que nous écoutons, un extrait de son album Amoureux de Panane. C'était à ses débuts en 1975. Nous écoutons Hexagone.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, à commencer par un ouvrage publié par les éditions Le Cherche Midi, signé Antoine Dreyfus, Les nazis à table. Voici une enquête historique inédite sur l'alimentation dans l'idéologie nazie. Sa fonction sociale, la purification de la table avec le développement du bio, du sain, du local. En effet, une fois au pouvoir, le régime nazi a fait de la question alimentaire une priorité. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traumatisme de la famine causée par le blocus anglais hante l'inconscient collectif allemand. Dès lors, l'idée d'avoir de quoi se nourrir a certainement motivé l'expansion territoriale, donc la guerre. Pour certains historiens, ce serait également une des raisons de l'éradication des Juifs d'Europe, considérés comme des bouches inutiles. Dans l'objectif fou de construire un homme nouveau, arien, en bonne santé, les nazis ont, entre guillemets, purifié la table. Prônant une cuisine nationale socialiste, avec des produits locaux, ils sont parmi les premiers à développer une agriculture biologique. Hitler lui-même devient végétarien. Tout pour eux fait l'objet d'une recherche qui se veut scientifique. Lutte contre le tabac et l'alcool, recherche massive sur la nutrition et le nombre de calories nécessaires par individu, expérimentation sur les aliments de substitution dans les camps de la mort. Le corps particulier, comme le corps collectif, doit être contrôlé, assaini. Les nazis donnent également à la nourriture une fonction communautaire. Ils établissent un schéma social sur lequel les femmes sont chargées des repas. La cuisine représente la place centrale dans la maison et la famille se réunit autour du ragoût du dimanche. En creusant de manière inédite et très documentée ce sujet de l'alimentation sous le Troisième Reich, l'auteur dessine aussi en filigrane l'étrange héritage que nous avons gardé d'un des régimes les plus meurtriers de l'histoire. Les nazis à table, c'est signé Antoine Dreyfus et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Aux éditions Actes Sud, Aline Cato, dans la collection Les routes de l'après, une collection pour penser les après-guerres, publie Mostar, ceci n'est pas une ville. Depuis qu'elle a découvert Mostar, c'était en 1999, lors d'un voyage avec une association, l'auteur n'a cessé d'y retourner, d'y vivre, d'y travailler. Ces longues promenades dans la ville bosnienne, la plus dévastée par la guerre en Bosnie-Herzégovine, l'amènent de quartiers encore en ruine au Vieux Pont, l'incarnation d'une reconstruction inachevée, jusqu'à une usine autrefois fierté de la puissance yougoslave, aujourd'hui symbole de la corruption des élites politiques locales. D'un lieu à l'autre, Mostar, toujours divisée et à jamais fascinante, dévoile la beauté et la ténacité de ses habitants. Au-delà de toute catégorisation, 30 ans après la fin des combats, voici un regard sur cet espace urbain avec une interrogation lancinante. Comment les Mostariens en sont arrivés à dire que la ville qu'ils aimaient a disparu? Mostar, ceci n'est pas une ville. C'est signé Aline Cato, c'est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Les routes de l'après. Et nous terminons cette chronique par un ouvrage de Lionel Shriver, publié aux éditions Bellefond, intitulé « Hystérie collective ». Voici une satire, et comme toute satire, d'une causticité sans réserve, portant sur la bien-pensance, le politiquement correct et la « cancel culture ». Avec une liste des mots interdits, stupides, idiots, bêtes, haut potentiel, méritocratie, des activités interdites, les devoirs, les tests, les notes, les examens, les entretiens d'embauche, les bilans de compétences, enfants, parents, voisins, collègues, amis, amants, époux, sont invités à se dénoncer les uns les autres. Tout contrevenant s'expose à un avertissement, une amende, voire à une peine de prison. Professeur à l'université, Pearson se demande encore comment les États-Unis en sont arrivés là. Depuis que le mouvement pour la parité mentale a pris le pouvoir, les enfants n'apprennent plus à lire, le niveau des étudiants a chuté, les dîners où l'on débattait à bâtons rompus sont devenus sinistres. Heureusement, il lui reste sa meilleure amie, Emory, pour ironiser sur la situation. Les deux femmes se connaissent depuis l'adolescence. La confiance entre elles est totale, ou du moins personne le croit-elle. Hystérie collective de Lionel Shriver s'est publié aux éditions Bellefond. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui, comme chaque semaine, l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Renaud. Extrait de l'album Marche à l'ombre, c'était en 1980. Nous écoutons Dans mon HLM.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Ses nuits dans les caves, avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine, dans sa petite vie de peine cul, sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré, que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter, c'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. La monde du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toutefois son il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Et la montre du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un et instite. Y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y a des matelas par terre. Les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer. Ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême. Bon HLM. Et la montre du huitième. Le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier, quand elle sort son cocker, au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant. Parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit, putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM, au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est pour dire si j'ai raison, putain ce qu'il est blême. HLM, et la montre du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubar et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut au huitième. Construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM.
Thank you.